Depuis 2014, une nouvelle métrie et une nouvelle façon d'acheter de l'inventaire numérique a fait son petit bonhomme de chemin. Le Cost Per Hour, le CPH pour les intimes. On en jase avec Jean-Sébastien Prénovost, spécialiste en médias numériques et appuyé pour la cause ce matin par la petite Émilie qui, vous le verrez, a elle aussi son mot à dire sur le sujet. Bon petit cast!
Écoute, moi j'ai toujours été à réfléchir dans l'innovation pour résoudre les problèmes, ce que j'appelle de proxy. Tu sais, les proxy, c'est toujours la métrique ou la façon de mesurer qui est comme vraiment pas l'idéal, mais qui est la meilleure dont on peut avoir au moment où on a l'information, où on a la technologie installée. C'est par exemple, si on n'est pas capable de mesurer l'efficacité qu'on a en ligne à amener des gens, par exemple, dans des succursales ou dans des magasins, ben on va prendre le next best thing, puis on va essayer de mesurer l'efficacité par rapport à ça. Puis il y a toutes sortes de proxy KPI pour toutes sortes de raisons. Puis l'idée, c'est qu'il y a toujours des solutions qui peuvent exister pour résoudre ces problèmes-là, pour mieux comprendre l'impact publicitaire, parce que l'impact publicitaire numérique, il n'est pas différent de l'impact publicitaire en général. Le but, c'est une exposition dans l'espoir d'engranger un certain engagement ou une action par des consommateurs. C'est de changer une façon de penser, d'amener les gens dans le funnel de conversion, de les amener à mieux penser notre marque, à considérer nos produits ou même les acheter. Cependant, on est pris dans l'engrenage de l'hyper-mesurabilité. Vu que tout est possible de mesurer, bien, on dit que ça, c'est bon à mesurer, ça, c'est bon à mesurer, mais au final, c'est jamais le end game, comme j'appelle. Par exemple, quand j'étais chez Ogilvy en 2011, j'étais dans les premiers au Canada à tester les standards de viewability ou la métrique de viewability. Donc, c'était au-delà de juste d'acheter des impressions, bien, est-ce qu'il y avait eu l'opportunité d'être visité au moins, est-ce qu'il y avait eu l'opportunité d'avoir un impact sur les consommateurs?
Ça, Jean-Sébastien, l'ajout de la viewability, l'ajout de ce cadre-là par rapport à l'exposition, à l'impression en tant que telle, c'est-tu rendu généralisé? C'est-tu rendu une norme de Yabby whatever ou il y a encore un petit Far West là-dedans?
Ben, c'est pas mal rendu. Je pense que c'est une norme. Tout le monde considère que la viewability est importante. Tous les revendeurs, toutes les plateformes technologiques ont des options de mesurabilité ou même d'optimisation intégrées à même la plateforme. Donc, c'est rendu un standard d'utilisation. Okay. Maintenant, le standard, qui est le standard du Media Rating Council, le MRC, bien qu'il ait été établi dans une autre époque où on parlait juste des impressions, qu'on passait à des impressions viewable, donc on faisait un grand pas en avant, sont clairement insuffisants. Parce que, si on peut tout de suite réfléchir à c'est quoi les standards? Premièrement, en bannière, si 50% des pixels ont été affichés à l'écran pendant une seconde, ben c'est considéré viewable. Mais là, si on pense au contexte publicitaire, c'est est-ce que 50% des mi-pixels pendant une seconde vont avoir réellement fait un impact quand tu as pris le temps de faire une bannière en HTML5 qui a 3-4 frames qui se déplacent et qui a un message souvent à la fin? Mais c'est là qu'on se questionne, est-ce que mon message a un impact? T'sais, oui, c'était viewable, mais c'était viewable combien de temps? C'était viewable de quelle façon? Etc. Donc, c'est beaucoup mieux que de juste y aller à l'aveugle, ça c'est certain, sauf que ça reste une métrique qui a clairement besoin d'être mise à niveau. D'ailleurs, GroupM a son propre standard de viewability qu'ils ont établi parce qu'ils trouvaient ça insuffisant. Donc, c'est pas 50% de pixels, c'est 100%. Puis, bon, en vidéo, par exemple, c'est la même chose. Donc, c'est 50% de pixels pendant 2 secondes. Mais pour GroupM, c'est 100%, mais c'est aussi le son activé. Donc, si je fais de la vidéo, le son est une composante importante de toute l'équation. Donc, s'il n'y avait pas de son, souvent, c'est des positionnements qui sont de moindre qualité sur le web. On en voit, là, tu l'expérimentes partout aussi comme consommateur, quand tu te promènes sur le web, des fois, les vidéos dans les coins à droite, qui partent sans son, c'est quoi l'impact pour l'annonceur? C'est discutable. Fait que ça nous amène, je pense, à cette réflexion-là, puis l'origine, je suis allé lire un peu moi-même sur exactement d'où ça vient, c'est le cost per hour, la nouvelle métrique, c'est des gens du Financial Times qui ont réfléchi à ça avec un consultant en 2014. Le concept n'est pas nouveau. T'sais. Cependant, très intéressant, parce qu'ils se sont posés la question, combien de temps il faut que j'expose les consommateurs pour avoir un impact positif sur ce que je veux faire comme objectif. Maintenant, je pense que ça a tendance à vouloir se démocratiser. Les plateformes de risque, de vérification comme Integral Ad Science ont intégré ce KPI-là à même leur plateforme de mesure. Et selon moi, on est à l'aube de ce que ça a été pour la viewability au début 2000. Donc, ça va, d'après moi, 18 à 36 prochains mois, ça va être quelque chose qui va tranquillement s'intégrer dans les marques qui sont les plus à l'avant-garde dans le marché nord-américain et au Canada.
C'est pas en réaction, ça, à... moi, je me rappelle ce qui devait être le début de la programmatique. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donnait accès à un univers d'inventaire malade qui faisait baisser le CPM. Fait que tous les clients capotaient là-dessus. Mais en même temps, on pouvait se questionner sur la validité, ou en tout cas la qualité de ces impressions-là. Alors que... avant cette époque-là, et corrige-moi si je me trompe, là, je dis peut-être des niaiseries au point de vue média, c'est pour ça que j'étais bien content de te parler, alors qu'à l'époque, on achetait peut-être un petit peu plus, pas des émissions en tant que telles, mais on achetait tel site, parce que ou telle section d'un site, là, on achetait à la carte, je ne sais pas si ça dit de même, parce qu'on se disait, ben OK, mon annonce, c'est dans la section Madame au foyer de tel site. Qualitativement, je rejoins peut-être du monde qui sont plus intéressés à mon produit, à mon propos. Ils m'ont peut-être payé un petit peu plus cher, mais tout ça étant égal par ailleurs, je vais peut-être avoir de meilleurs résultats. Alors qu'à un moment donné, ça a été ces madames-là, ils se promènent partout, on va les pogner partout dans les sites les plus mongols qu'il n'y a pas. Tu sais, Financial Times, le fait que ce soit un média de qualité en plus, qu'on dit, c'est clair, à mon sens, qu'il y avait une réaction à l'achat en vrac, puis d'essayer de redonner une plus-value, parce que, je disais, quand t'es un site avec du contenu de qualité qui rejoint une audience de qualité, le niveau d'engagement par rapport au contenu est là, donc on peut prendre pour acquis que si c'est bien ciblé, puis même en termes de ad exposure, tu vas voir la pub plus longtemps. C'est-tu dans ce sens-là que c'est venu, d'après toi, le CPH?
Oui, parce que ça devenait... c'est le quantity play sur le quality play. Fait que, comme tu l'as bien dit, la programmatique, ou même avant ça, le RCB, c'était du volume. Là. T'achetais pas cher, t'en achetais beaucoup, puis c'était ce que j'appelle le spray and pray. T'envoyais beaucoup partout. Là, après ça, la programmatique est arrivée, les techniques de ciblage se sont raffinées, les audiences, toutes ces choses-là. Donc, ont permis d'avoir une meilleure sélection des gens auxquels on envoyait nos messages. Mais malgré tout, la qualité des impressions est toujours plus difficile à avoir. Là, on passe dans une autre ère de programmatique avec des deals en direct, avec les éditeurs, des deals avec la presse. La même façon qu'on pouvait faire en direct, on passe par des plateformes d'achat automatisées avec tous ces ciblages plus pertinents et plus évolués qu'auparavant. Effectivement, la réflexion du Financial Times s'est faite de cette façon-là. Ils se sont dit, OK, on n'a pas le volume parce que les sites et les autres ils mettent toutes sortes de ad spots un peu partout sur leur site. Ils scindent les articles en 5, 6, 7, 10 pages pour avoir 5, 6, 7, 8, 10 impressions publicitaires fois 3 ad spots sur la même personne versus nous, on le fait dans une seule page. Donc, parce que la qualité, le contenu, notre expérience utilisateur pour nous est importante. Donc, comment on fait pour prouver à l'annonceur que cette exposition de publicité-là qui est sur nos sites, qui est de plus longue durée, a une plus grande valeur. C'est clairement ça. Et puis c'est ça aussi que l'annonceur doit faire de son côté. C'est beau du côté éditeur, c'est beau dans la vision, mais à la fin de la journée, OK, si j'ai envoyé 1000 impressions à 1000 instituts, puis il y en avait juste 50% de valises, puis à la fin de la journée, j'en ai un qui fait une action, puis pour le même prix, j'ai envoyé 100 impressions, puis il y en a un qui fait une action aussi, tu sais, ça t'équivaut là, à la fin de la journée. Tu te dis, OK, mais j'ai eu le même résultat avec le même investissement de budget, mais même si j'ai eu 10 fois moins d'impressions pour un ou 10 fois plus pour l'autre, si je ne mesure pas l'impact, la marque à long terme ou la favorability à plus haut niveau, je perds ce bout-là. Tout ce que j'ai, c'est mon résultat à court terme qui est ma conversion ou qui est mon action que je désirais.
Ça dépend de tes objectifs aussi, parce que le CPH doit faire plus la job dans une campagne de notoriété, par exemple. À la fin de la journée, tu vas te douter que le monde l'a plus vu ton message, même si tu n'avais peut-être pas un geste physique à faire, tu n'avais pas besoin de cliquer. Cette qualité-là joue probablement un rôle plus important, alors qu'en termes de, je sais pas moi, c'est Simons qui fait une annonce, puis il veut t'amener dans les bobettes rouges parce que c'est le Black Friday.
Ben, moi, je pense que ton effet, c'est bon, dans la mesure où les annonceurs vont mieux comprendre la raison d'exister d'un CPH pour la notoriété. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est vraiment bon pour tout à son autre, simplement parce que pour avoir vu de nombreuses campagnes, de nombreux annonceurs à travers les années, quand on parle de conversion, là, les click-through conversions, là, avec le clic, là,
ouais.
Il n'y en a pas tant que ça. Là.
Mais non.
C'est la réalité, c'est que c'est des view through. Les gens ont été exposés, après ça, ils sont allés sur le site où ils ont fait une recherche, où ils ont passé par un autre canal pour se rendre sur le site pour faire la conversion. T'sais. Mm-hmm. T'sais, on a influencé ben, quelque part à que les gens réfléchissent à un produit, à un service, puis c'était peut-être pas le bon moment pour eux, puis plus tard, c'était le bon moment, puis ils sont allés sur un autre device, tu sais. Bon, là, on a perdu leur trace, puis ils sont passés de leur desktop au bureau à leur téléphone mobile, puis on a perdu la trace, puis en fait, il y a toutes sortes, c'est compliqué, là. Mais mon réflexe, je dirais, si j'ai des bonnes expositions de qualité à tous les niveaux, j'aurai un impact à tous les niveaux.
Très belle allure. Ça remet-tu en question, le coup-par-clic, toutefois?
Ah, le coup-par-clic, c'est pas une notion nécessairement que je regarde tant que ça.
Ouais.
À moins que, quand, encore une fois, ça devient un proxy. Si c'est la seule chose que je peux mesurer, parce que
ouais.
Pour une raison quelconque, j'ai pas de pixels sur mon site, je peux pas mesurer une conversion, ben oui, on va mesurer le trafic, tu sais, puis le coût pour ce trafic-là, effectivement. Mais c'est pas quelque chose que j'ai tendance à regarder au premier
coup d'œil. Pour en revenir au CPH, on comprend ce que ça apporte, mais est-ce que ça a ses limites, toutefois, en termes de valeur, comme élément de mesure?
Ben oui, parce que je vais donner un bon exemple. Tu sais, un CPH, en tant que tel, si tu fais juste le regarder, tu dis, OK, je vais t'envoyer 20 pubs, OK, qui vont être là une seconde chaque, OK, versus je t'en envoyer 3, une faisait 10 secondes, puis deux faisait 5 secondes. Est-ce que les 20 impressions vont avoir eu un meilleur impact que les 3? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Je pense que les 3 sont supérieurs à cause de leur qualité et leur temps d'exposition, parce qu'ils ont moins eu le temps d'être vus. Fait que là, c'est là qu'il va falloir faire, OK, mais quelle part des expositions étaient entre, mettons, 5 et 1 seconde? Quelle part ont été entre 1 et 5 secondes? Quelle part était moins de 1 seconde, donc pas viable? Là, pour analyser ça, c'est selon les différents, je dirais des quartiles ou des segmentations, si tu veux, de d'impression.
Mm.
Puis après ça, voir les résultats par rapport à ça. Est-ce que ça vaut plus la peine d'être plus longtemps exposé? Est-ce que c'est. Je sais pas. J'ai pas la réponse à ça, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir.
Okay.
Il y a pas. C'est pas juste un unicorn KPI qui dit OK, ben si j'ai atteint 30 secondes, ça va bien. Non, parce que tu vas en fait 30 secondes parce que t'as envoyé ta pub 30. Il y a vu ta pub 40 fois, tu sais. Mais 40 fois pas longtemps. Ça fait que ça n'a pas beaucoup d'impact selon moi, là. Bien sûr.
Fait que dans ta compréhension de ce que Yann Leroux nous partageait, puisque ce qui existe présentement dans le marché, même si c'est à l'état très petit, on tient pas compte de la durée du message, on fait juste additionner les quarts de seconde, les huitièmes de seconde pour arriver à un total de secondes.
Ben, en fait, eux autres, ils permettent de faire plein de choses, puis je pense que c'est important de travailler avec eux, ton partenaire de vérification, le partenaire de vérification, dans ce cas-ci, tu parles d'Integral Life Science, ça pourrait être un autre, j'imagine, que Maud va suivre, ça sera pas très long. Mais il faut partir de travailler avec eux autres, justement, pour réfléchir à ça, puis savoir comment travailler avec ce KPI-là, pas juste le prendre à la gueule. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Là.
Mm-hmm. Quand Leroux nous parlait de CPH, c'était uniquement à l'univers relié à l'univers numérique, puis ça ne tenait pas compte d'un spot de 30 secondes, mettons, puis d'un radio de 15 secondes.
Non, mais je pense que c'est là qu'en travaillant avec le partenaire technologique, le ministère de recherche, puis d'essayer d'unifier tout ça, parce que effectivement, si on commence à en penser, à mesurer, c'est parce que la télévision, ça s'est mesuré comme ça depuis longtemps, là, le temps d'exposition, combien de temps je l'envoie, numérique ou les
oui.
Termes de mesure le faisaient, c'est le front pour savoir combien de temps que les gens vont exposer au message.
Uh-huh.
On peut toujours savoir combien de têtes j'ai envoyé, ça me donne quoi comme effet dans mes produits, dans le marché suivant, c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps.
Mm-hmm.
Mais là, si on peut le faire de la façon numérique, parce qu'on a comme une façon de mesurer l'impact, je pense qu'il faut réussir à unifier tout ça ensemble pour que ça fasse du sens. C'est un gros travail, mais je pense qu'on met tout le monde ensemble, c'est définitivement possible.
Qu'est-ce qu'on va apprendre à ce moment-là, d'après toi, si éventuellement, puis forcé d'admettre ou de croire ou de penser qu'à un moment donné, tout va être dans tout, mais quand on va se mettre à calculer là, les CPH, toutes plateformes confondues, on va-tu apprendre des choses par rapport à la valeur de la seconde du web versus la valeur de la seconde de la télé?
Peut-être. Moi, je pensais plus que le premier impact que ça va avoir au moyen terme, ça va être la façon dont dans les sites sont construits, puis les sites de contenu sont construits, puis la façon dont les ads sont insérés pour donner plus de qualité plutôt que la quantité comme c'est présentement dans beaucoup de cas. Donc, ça va changer notre expérience de browsing, ça va changer de cette façon-là, je pense que ça va y avoir un impact sur le consommateur parce qu'on va vouloir offrir une meilleure qualité à l'annonceur parce que l'annonceur va rechercher ça. Mais peut-être que je me trompe, puis peut-être que il va toujours avoir des annonceurs qui vont y aller pour le quality play. Puis ça va peut-être aider les publishers de contenu premium, là, locaux, les journaux, la presse, les sites qu'on sait qui sont de bonne qualité parce qu'on les visite, on voit comment ils sont faits, puis ils sont réfléchis comme ça. Je pense que ça va les aider. À soutenir leur écosystème et à donner de la valeur à leur publicité.
Fait qu'on est encore pas mal loin d'un monde où on se met à comparer la seconde du web avec la seconde du 30 secondes télé.
Loin, je dirais oui. Oui. Moi, c'est une horizon de. Je lance un chiffre parce que j'aime ça, là, mais je me dis 3-5 ans peut-être. Il y en a qui vont peut-être le faire avant, mais de façon à ce que ça se discute et que l'ACA arrive avec une présentation qui parle de ça, puis qu'il y a des conférences qui se donnent sur le sujet. Ça va naître ailleurs, ça ne sera pas au Québec, là, ça va naître en Europe, puis en France, ça va naître aux États-Unis, ça va naître en Australie peut-être plus avant, parce que c'est souvent un marché test pour des choses ouais. Nouvelles comme ça. Là-dedans...
Là, ça a un peu d'allure. T'as dit à manger, pauvre titre?
Jase.
OK. As-tu un point de vue sur le CPH? Hein?
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!